Vous êtes sur RTL.
18 à Annecy et Rouen, 20 degrés à Paris, à Limoges, à Poitiers, 21 degrés pour Nice, 24 à Bordeaux et Montauban et 26 à Toulon et à Marignane.
Merci Valérie.
RTL, le 10h avec Yann Bouchery.
Vous l'avez probablement constaté, il y a plus de monde dans les rues depuis quelques jours. Un besoin de liberté évidemment compréhensible après 7 semaines d'enfermement, mais une bien mauvaise idée sur le plan sanitaire, si l'on en croit le ministre de la Santé, qui lance une mise en garde ce matin dans le journal Le Parisien. Un relâchement précoce pourrait remettre en cause l'assouplissement des règles prévues le 11 mai, prévient Olivier Véran. Faut-il considérer cette déclaration comme une dramatisation politique ou le danger est-il réel? C'est toute la question. Attention, le risque est existe et c'est le terrain qui va tout décider, selon François Braun, le président des SAMU de France.
Oui, bien sûr, c'est un risque. Nous savons tous que le déconfinement va être quelque chose de compliqué. Un des enjeux majeurs, c'est d'éviter à nouveau la saturation des hôpitaux et des services de réanimation avec des risques pour les patients. Donc, bien entendu, si les conditions de prise en charge correctes des malades de Covid ne sont pas réunies, il peut sembler logique de retarder un peu le déconfinement.
Ça pourrait être retardé de quelques jours, selon vous ?
Ça va dépendre vraiment des situations locales. On voit que les chiffres varient vraiment d'une journée à l'autre sur une pente qui est pour l'instant plutôt favorable. Mais on va être extrêmement attentif au suivi de cette activité. Dans le Grand Est, il reste encore quand même beaucoup de malades, un petit peu au-dessus de la norme, de notre habitude de remplissage des services de réanimation. Donc effectivement, la semaine qui vient va être déterminante.
François Braun, le président des SAMU de France, joint pour RTL par Patrice Thomas. Une des conditions d'un déconfinement réussi tiendra, on le sait, à la qualité du système de dépistage de la maladie. Deux moyens existent actuellement, les tests virologiques par écouvillon et les tests sérologiques par prélèvement sanguin afin de rechercher des anticorps. Les tests sérologiques n'ont aucun intérêt sur la totalité de la population. C'est la position de la Haute Autorité de Santé qui a dévoilé hier son rapport. Elle préconise une stratégie différente de prise en charge de l'épidémie. Dominique Le Guludec, présidente de l'institution, jointe pour RTL par Jacques Serret.
Il y a encore de nombreuses inconnues sur la réponse immunitaire de l'organisme. On ne sait pas encore quelle immunité elle confère, quelle protection elle confère aux personnes qui ont contracté ce virus. C'est ce qui a amené la HAS à exclure un dépistage en population générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun test sérologique n'est capable de vous délivrer le passeport immunitaire dont tout le monde rêve pour le déconfinement.
Dominique Le Guludec, présidente donc de la Haute Autorité de Santé, elle était jointe pour RTL par Jacques Serret. Une première en France, mais en l'espèce, ce n'est pas une bonne nouvelle. Un chat a été testé positif au Covid-19 en région parisienne. Il a probablement été infecté par ses propriétaires, annonce l'École nationale vétérinaire d'Alfort, selon laquelle l'animal présentait des signes cliniques respiratoires et digestifs. En revanche, il n'y a pas de contamination avérée en direction de l'homme. Toujours la controverse sur les masques. Renaud Muselier, président LR de la région PACA, annonce qu'il met en demeure plusieurs enseignes de la grande distribution pour savoir comment elles ont pu se fournir en période de pénurie. Il les enjoint à justifier des bons de commande ainsi que les justificatifs de livraison datés. Sinon, Renaud Muselier se réserve le droit de porter plainte contre X auprès du procureur de la République. Le casse-tête des transports en commun en Île-de-France, il n'y aura pas que les masques. Il y a aussi le problème de l'affluence. Ce matin, dans le JDD, la présidente de la région réclame une attestation obligatoire des employeurs avec des horaires définis pour les salariés. Valérie Pécresse demande également le renfort de 5000 personnels pour filtrer les entrées de chaque grande gare ou grande station. Tous ces sujets fourniront une bonne matière de discussion pour le grand jury RTL Le Figaro LCI. Benjamin Sportouche, bonjour.
Bonjour Yann, bonjour à tous.
Votre invité à partir de midi sera le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Oui, Christophe Castaner qui sera l'un des ministres clés dans la mise en œuvre de ce déconfinement. Une tâche très lourde, donc, et déjà la date du 11 mai sera-t-elle respectée? L'interrogation demeure, par exemple, pour l'Île-de-France. Vous l'avez dit, à cause de la question hypersensible des transports en commun et de la distance physique, qui sera un vrai casse-tête. Pareil pour la distance maximale de 100 km que l'on pourra parcourir. Comment a-t-elle été décidée, cette distance? Pourra-t-elle être augmentée d'ici le 2 juin, le prochain palier fixé pour le déconfinement? Beaucoup de zones floues, Idem pour les brigades qui devront faire en sorte que les porteurs du virus ne le propage pas, mais avec quelles garanties sur la confidentialité des données? Voilà des réponses très attendues de Christophe Castaner. Dans un contexte de défiance persistante des Français, les sondages se multiplient et se ressemblent. Le gouvernement peut-il inverser la tendance? Eh bien, on verra tout ça avec Christophe Castaner. Je vous dis à tout à l'heure, midi.
Merci Benjamin Sportouche. Une indication aussi sur la suite des élections municipales. Un projet de loi a été officieusement transmis au Conseil d'État. Dans les 30 000 communes où l'élection est acquise depuis le premier tour, les nouveaux maires seraient installés avant la fin du mois de mai. Pour les 4 800 autres, le scrutin devrait être réorganisé en deux tours avec comme date retenue les 27 septembre et 4 octobre. À l'étranger, échange de tirs cette nuit dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord a déclenché de multiples coups de feu en direction de son voisin du Sud au niveau de la zone démilitarisée. Un poste de garde sud-coréen a été touché mais aucune victime n'a été signalée. L'état-major de Séoul a riposté et a envoyé un message de mise en garde. Une pause dans ce journal de 10 heures, puis nous évoquerons la crainte d'une saison blanche dans les campings de France. A tout de suite.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
10h et 8 minutes. Sera-t-il possible de partir en vacances cet été? La question taraude beaucoup de Français, mais aussi beaucoup de professionnels du tourisme. À ce titre, les 8000 campings de l'Hexagone vivent actuellement dans l'incertitude. Il s'agit tout de même du deuxième plus grand parc d'hôtellerie au monde derrière les États-Unis. Et l'absence de visiteurs constituerait une véritable catastrophe. Pourtant, la clientèle est désireuse de s'aérer dès que possible. Illustration avec vous, Denis Grandjou, en Nouvelle-Aquitaine.
Oui, pas de répit au standard du camping 5 étoiles de Cantis Plage, dans les Landes.
Yellow Village, camping de Sorotte-Marie, bonjour. Ah, bon courage à vous, prenez soin de vous et on se tient au courant par mail ou par téléphone, hein, n'hésitez pas. Tous les jours, on a des appels ouais, d'inquiétude surtout, après pas forcément négatif, hein. Dans la grande majorité, ils comprennent.
Une compréhension à défaut d'une information précise car personne ne sait quand et comment les campings pourront ouvrir. Philippe Kirig est directeur d'un camping en Daï.
L'idéal, c'est que ça se déconfine rapidement, disons fin juin, et qu'on puisse démarrer la saison vraiment 1er juillet au top.
La Fédération de l'hôtellerie de plein air n'a pas encore adopté de position officielle, faute de calendrier. Mais dans les campings, on s'organise, comme sur la dune du Pilat où le camping des Flots Bleus se prépare.
Sur les sanitaires, y aura un nombre limité. Il y aura peut-être un sanitaire sur deux. Sur les toilettes, pareil. La piscine, on ne l'ouvre pas tant qu'on ne nous dit pas qu'on peut l'ouvrir. Et puis l'épicerie, on fera comme dans les supermarchés. Ils rentreront deux par deux, avec du gel à l'entrée, des masques et compagnie. Et puis voilà.
On devine que pour l'instant, l'incertitude est de mise, avec en plus une interrogation sur le recrutement à venir des saisonniers, pour l'instant en stand-by dans la totalité des campings, un secteur qui emploie tout de même près de 48 000 salariés.
Le reportage de Denis Grandjou dans les Landes pour RTL. À 10h10, on passe au sport et au football. La Ligue 1 pourrait reprendre dans la deuxième quinzaine du mois d'août. C'est l'objectif annoncé hier soir par Didier Quillot, invité dont refait le match sur RTL, avec les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue juste avant. Tout cela reste suspendu évidemment aux injonctions du gouvernement, a précisé le directeur général de la Ligue de football.
Notre objectif premier, c'est de démarrer la saison en août et on a une date cible qui est la date du 22-23 août. On discutera de cette date-là avec les diffuseurs, les nouveaux diffuseurs la saison prochaine et aussi avec l'État qui détermineront les conditions dans lesquelles on peut rejouer en août, à huis clos, pas à huis clos, avec quelle jauge, etc. Je pense que les entraînements, on attend là aussi les directives du gouvernement et j'imagine qu'ils pourront avoir lieu quelque part à partir de la deuxième quinzaine de juin. Si on maintient l'objectif du 22-23 août pour démarrer la saison et qu'on peut rejouer à partir de début août, eh bien à l'évidence, il reste un à deux week-ends et on pourrait loger les deux finales, Coupe de France et Coupe de la Ligue.
Didier Quillot, le directeur général de la LFP, hier sur RTL dans On refait le match. La finale de la Coupe de France à huis clos, c'est non pour Roland Remeyer, le président de Saint-Etienne, qui sera opposé les Verts au PSG dans cette finale. Il l'a dit ce matin chez nos confrères de l'équipe. Le foot français, notez-le, qui se réunira demain par visioconférence en Assemblée Générale. Selon le journal Le Parisien, les 40 clubs professionnels sont décidés à contracter un prêt garanti par l'État pour l'ensemble du secteur. Et puis en Allemagne, le ministre de l'Intérieur s'est déclaré lui favorable à une reprise de la Bundesliga d'ici la fin mai. Le foot et tout le reste, on en parlera ce soir sur RTL dans On refait le sport de 19h30 à 20h avec Le Parisien aujourd'hui en France. Comme promis, on termine ce journal avec l'ingéniosité d'une famille belge de la Louvière. Le McDo de la ville a rouvert, mais seulement en drive pour cause de coronavirus. Problème, la maman ne possède pas de voiture, alors elle en a fabriqué une en carton et ça a marché. Elle a été servie, une imagination débordante pour la bonne cause, Caroline N.
Oui, rien n'arrête Nathalie pour rendre ses deux adolescentes heureuses. Cette maman se munit de grands morceaux de carton et de scotch, des trous pour le pare-brise et les fenêtres, des phares dessinés au feutre. En quelques minutes, la McDomobile est prête. La petite famille embarque dans le véhicule, direction le drive-in. Arrivée sur le parking, c'est l'hilarité générale des passants, des clients, du personnel et de la police. Les policiers leur donnent l'autorisation de rester dans la file de voiture et s'attardent de même pour se prendre en photo avec le drôle de véhicule. Nathalie et ses filles récupèrent leur commande sans accroc et repartent chez elles. Un message sur la carrosserie cartonnée, ado plus McDo égale un pro.
Caroline N à Bruxelles pour RTL. 10h13, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On retrouve tout de suite l'ami Vincent Perrault. Alors, la McDo mobile, ça pourrait donner des idées à beaucoup de monde, ça, Vincent, j'ai l'impression.
Oui, je pense que ça rendrait bien service, en tout cas. Je ne ferais peut-être pas des courses automobiles avec ce genre de choses.
Enfin, peut-être pas.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, 11h.
Merci, Yann. Vous êtes...